Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Marie-Christine Loubry et du docteur Dominique Desmichel pour une troisième émission autour du conte Les Six Cygnes, conte choisi par Marie-Christine. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, un roi épouse par obligation la fille d'une sorcière. Celle-ci transforme les six garçons qu'il avait d'un premier mariage en cygnes pour s'en débarrasser. Mais leur sœur en réchappe et elle décide de partir à l'aventure pour les sauver. Elle apprend que pour rompre le sortilège, elle doit coudre six nouvelles chemises et surtout ne pas parler et ne pas rire pendant 6 ans. Un autre roi s'éprend d'elle, il l'épouse contre la volonté de sa mère et pour s'en débarrasser, celle-ci accuse sa belle-fille de manger ses enfants. Et bien sûr, justice sera faite. Alors nous retrouvons à peu près à la moitié de ce conte, Marie-Christine, et c'est un petit peu un conte miroir, et dans cette deuxième partie, on va avoir évidemment la résolution de la première partie et un équilibre qui va être rétabli entre à la fois le bien et le mal, et puis sûrement la féminité et puis la part masculine des personnages.
Oui, c'est-à-dire que la jeune femme, elle-même va avoir des enfants. La jeune femme va être confrontée à sa belle-mère. Et ces personnages féminins, puis aussi le roi, on pourrait les voir comme des images miroirs des précédents personnages dans la première partie de l'histoire. C'est-à-dire que là, le jeune roi, on peut l'imaginer comme le roi de la première partie qui va s'affirmer, qui va réussir à vivre sa vie et à retrouver un équilibre.
Alors justement, docteur Dominique Desmichel, est-ce que vous pouvez nous rappeler, selon vous, quelles étaient les caractéristiques de ce roi pour commencer ?
Oui, moi je trouve que ce que vous dites, Marie-Christine, là, ça me paraît très, très intéressant et très juste. Si on reschématise en gros, le casting de l'histoire. Hein. Il y a un roi, sa première femme meurt. Il y a une deuxième femme. La première, on peut penser qu'elle était, en gros, pour faire court, gentille. Elle a eu 7 enfants. Image d'une totalité. Elle disparaît. La deuxième femme, c'est un problème puisque le roi, il se retrouve dans la forêt, il se retrouve coincé, et là, il est en quelque sorte obligé d'épouser la fille d'une sorcière. Il est obligé d'épouser la fille d'une sorcière, c'est-à-dire celle que sa belle-mère, en quelque sorte, lui impose. Et ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, ou vous plutôt, c'est-à-dire que le deuxième roi de la fin va épouser une femme contre la vie de sa mère. Hein. Donc on voit bien
que l'histoire se répète.
Voilà, ouais. Ça se répète, mais ça se différencie.
Et ça se différencie.
Puisque le premier roi, il épouse celle que sa belle-mère, enfin future belle-mère, lui impose. Il lui dit, tu épouseras ma fille, je suis une sorcière, mais tu épouseras ma fille. Ensuite, on sait ce qui se passe au niveau des enfants du premier couple. Et puis ensuite, il y a ce personnage central de la fille qui va résoudre quelque chose avec son tissage et son silence. Évidemment, on pense à Pénélope, hein, qui est à la fois dans un silence et un tissage.
Alors comme dans beaucoup de contes, c'est une histoire de femmes, en tout cas, qui mettent en valeur une héroïne et puis les parties féminines que nous avons tous en nous, vous nous diriez, docteur Dominique Desmichel.
Oui, je pense qu'on peut lire cette histoire de deux points de vue. Du point de vue d'un homme et du point de vue d'une femme. Alors puisque vous commencez par le point de vue de la femme, ça me paraît vraiment intéressant parce que on voit bien ici que le personnage central, c'est une héroïne, c'est une sœur, et que c'est elle qui va permettre qu'une première histoire tragique arrive à se dénouer. C'est pour ça que je verrais bien l'idée que ce roi, il a eu une mère dont on ne parle absolument pas, on est bien d'accord, mais qui apparaît dans une certaine mesure à l'occasion de son deuxième mariage. Je rappelle pour que tout le monde suive bien, il a perdu sa première femme. On ne sait rien de sa première belle-mère, on ne sait rien de sa mère. Elles sont absentes. Mais lui, quand il se retrouve dans son inconscient, c'est-à-dire dans sa problématique personnelle au milieu de la forêt, qui est-ce qu'il rencontre ? Il rencontre pas une belle au bois dormant, il rencontre pas un meilleur copain, il rencontre pas un petit lutin qui va l'aider, non. Il rencontre un équivalent de belle-mère. Il rencontre une mère, en tout cas, qui se révèle être une sorcière. Donc il me semble que le conte indique ici que probablement la mère belle-mère de ce roi devait être quelque chose comme une sorcière. C'est-à-dire que ça désigne ici, non pas qu'il avait une mauvaise mère, mais ça vient ici mettre en scène la partie négative des mères en général. Puis, cette belle-mère, ici, ou cette mère, c'est pareil, lui impose de choisir une fille, c'est-à-dire il n'a pas le choix. Pour ne pas mourir, il faut qu'il épouse cette fille. Et on connaît la suite. Du point de vue de la fille, elle est donc la fille de ces deux femmes. C'est-à-dire, elle a eu une première bonne maman, c'est-à-dire c'est celle qui a une première maman bonne, hein, pour ne pas confondre avec le bonne maman dans le temps grand-mère. Elle a une première maman qui est celle qui a engendré les six garçons et la fille. Puis elle s'est confrontée à une deuxième mère qui me semble ici être une sorcière. Et cette deuxième mère, la fille de la sorcière en l'occurrence, et cette deuxième mère, elle est en train de ne pas supporter l'existence des premiers enfants. Comme si au fond l'enfant tout petit avait eu la chance d'avoir une maman toute bonne, et comme si en grandissant, il se confrontait à la partie négative de la mère, représentée ici, comme souvent, pensez à Cendrillon, à Blanche-Neige et toutes ces histoires-là, à une mauvaise mère, qui va éliminer tous les enfants. Et elle, son parcours, ça va être un parcours de salut pour sauver tout le monde. Et elle va refaire l'expérience d'une rencontre avec un homme, c'est le deuxième roi, dans sa forêt à elle. Elle lui offre en quelque sorte, on l'a vu dans le conte, sa nudité symbolique, hein, c'est-à-dire elle se présente dans la vérité la plus exigeante d'elle-même. Lui, il va l'aimer, il va lui faire confiance, il va dépasser les réticences de sa propre mère à lui, hein, donc de la belle-mère de... Voilà. Et c'est ce qui va permettre que quelque chose s'accomplisse et qu'on sorte d'une fatalité tragique, à savoir des enfants prisonniers de la partie négative ou mauvaise de leur mère.
captain, a capsized ship. But I like watching you live.
Alors, renons avec le cours de notre récit. La belle-mère, qui ne supporte pas sa belle-fille, qui vient de se marier avec le roi, qui la prend pour une folle, va l'accuser d'avoir mangé ses enfants. Et Marie-Christine, vous m'avez avoué que c'était ce petit détail qui avait fait que vous avez choisi ce conte.
Oui, il y a cette scène, effectivement, où La vieille reine dit, mais c'est une ogresse, elle a mangé ses enfants, et puis qu'elle barbouille de sang la jeune femme. C'est vrai que c'est une image que je trouve assez saisissante. Le rôle de l'ogresse ou de l'ogre dans les contes, donc c'est qui mange les petits enfants, souvent c'est très frappant. Alors après, bon, pourquoi, je sais pas, mais c'est vrai que je la vois bien, cette femme qui arrive, regarde, c'est elle a mangé tes enfants, c'est une ogresse, tu peux pas la garder, ça fait peur quand même.
Et puis elle barbouille le visage de sang, quoi.
De sang. Et oui, c'est cette image. Après, j'imagine qu'on peut remonter dans la mythologie.
Oui, docteur Dominique de Michel, c'est assez courant dans les contes que les enfants se fassent manger.
Il y a une petite nuance, il me semble. C'est que autant la figure de l'ogresse est une figure de dévoration d'enfants, hein, on pense à Hansel et Gretel par exemple, autant ici, il me semble...
C'est un simulacre. Hein.
Voilà, que c'est un simulacre et que la haine de la belle-mère, hein, donc de la mère du roi, ne se situe pas par rapport aux enfants. On est déjà dans un progrès par rapport à la première partie de l'histoire, mais se joue dans une jalousie par rapport à la femme. Hein. Puisqu'au fond, on sait que ce dont elle a envie, au fond, cette belle-mère, la deuxième belle-mère, si je puis dire, hein, c'est que la femme disparaisse. Hein. C'est-à-dire, elle a envie de garder son fils...
Garder son fils pour elle, quoi.
Pour elle, oui. Voilà, envie de garder son fils pour elle. Elle n'en veut pas aux enfants, finalement, ça ne la dérange pas trop, on pourrait dire... Elle est une grand-mère, pardon, acceptable. Elle est une grand-mère acceptable, vivante, peut-être généreuse avec ses petits-enfants, mais elle ne supporte pas sa belle-fille. Donc, je pense qu'ici, on voit bien que le côté, quand elle barbouille de sang, enfin, ou de faux sang, je ne sais pas trop quoi, sa belle-fille, elle projette sur elle quelque chose qui, dans une certaine mesure, doit lui appartenir. Hein. Elle projette sur sa belle-fille quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, c'est comme ça que j'entends le silence. Je ne sais plus si on dit le nombre d'années, mais Oui, elle est silencieuse
pendant 6 ans.
6 ans ou 7 ans, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire d'un temps de régression où on ne peut pas s'autoriser du langage, il faut être que dans une intériorité, éventuellement une créativité, avant de pouvoir faire qu'on s'en sorte.
Et justement, cette image où la belle-mère la barbouille de sang, elle pourrait se défendre, elle pourrait expliquer ce qu'elle a vu, mm-hmm. ou que non, elle n'a rien fait, mais justement, elle reste dans ce silence et je dirais qu'elle l'accepte. Et elle continue à tisser, à coudre les chemises de ses frères. Et je me posais la question par rapport aux frères qui, eux, sont transformés en signes de la part de la belle-mère. Donc, pareil, la belle-mère, elle ne les a pas tués. Elle les a transformés. Ils régressent d'une certaine manière d'un côté animal. Et elle, la fille, elle a réussi à y échapper. Mais peut-être qu'il lui manque aussi un côté masculin qui reste, qui n'est pas arrivé à maturité d'une certaine manière.
Oui, moi je trouve que c'est très très intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait se dire, si quand la belle-mère, la mauvaise belle-mère la barbouille de sang et l'accuse d'avoir dévoré ses enfants, on pourrait se dire, il suffit qu'elle prenne la parole, elle se défend, et puis voilà. Et elle va sauver ses enfants et dire la véracité factuelle et au fond sa vérité. Qu'est-ce que ça changerait ? Eh bien, ça changerait qu'elle ne sauverait pas ses frères, comme vous le dites. Donc, elle a une double mission. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, et je pense qu'on va y revenir peut-être un petit peu plus tard, de se dire qu'elle, elle a deux lignées à sauver. Elle a la lignée des femmes, dans laquelle il y a de la mauvaise mère, avec la sorcière, la deuxième femme du premier roi, et puis au fond, la belle-mère du deuxième roi, qui sont des figures quand même un petit peu sombre, qui ne l'accepte pas, mais elle a aussi à sauver le masculin, comme vous le dites. Donc elle a une double mission de restaurer quelque chose du l'ordre d'une féminité et d'une maternité juste et harmonieuse, mais aussi de sauver une virilité probablement encore sauvage et pas différenciée, et probablement peut-être pas sortie des mers.
Et aussi avec la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est que il reste justement un des frères avec une aile de cygne.
Oui.
Et ce côté inachevé, ça, est-ce qu'on n'arrive jamais à se réaliser soi entièrement ? Enfin, c'est la question que ça peut poser. Est-ce qu'au fond, il reste pas toujours, et ce qui est bien d'ailleurs, quelque chose.
Une part de merveilleux aussi.
Une part de merveilleux, une part d'inaccompli, peut-être.
Reprenons le chemin de notre histoire pour ne pas nous perdre avant la fin de cette émission. L'histoire va se répéter par trois fois. C'est-à-dire que par trois fois, la belle-mère va subtiliser les enfants de l'héroïne de l'histoire, jusqu'au moment où le roi n'en peut plus et est contraint de condamner sa femme à être brûlée vive. C'est à ce moment-là que le temps imparti se termine et que donc les frères vont réapparaître et que le sortilège va être brisé, quoi. Alors, on est dans une... On avait parlé de cette histoire comme étant une suite de métamorphoses, et on arrive donc à la dernière métamorphose, qui est celle des cygnes qui vont retrouver leur apparence d'être humain grâce aux chemises cousues par la fille.
Oui, moi je crois que la violence de la partie négative de la mère a donné aux enfants une sorte de tunique de mort. Cette tunique de mort, comme vous le remarquez à juste titre, ne les a pas tués, mais les a transformés en des animaux déserts, voilà, de l'air, voilà, sans les faire mourir, mais en ne leur donnant pas leurs conditions humaines. Et au fond, la jeune femme, leur sœur, va leur lancer des tuniques de vie. Elle va leur redonner la vie.
On arrive à la fin de cette histoire et également à la fin de notre émission. Marie-Christine, finalement, tout est rétabli dans cette deuxième partie du conte. Tous les équilibres sont rétablis. C'est un peu le rôle des contes en général, de rétablir un équilibre qui a été perdu.
Oui, c'est une situation qui, à un moment donné, débloque et des épreuves, on va dire, à affronter, à regarder, à traverser pour revenir à une situation qui va pas être la même qu'au départ, qui va être mieux d'une certaine manière, puisqu'on évolue, puisque le héros...
On grandit pendant cette histoire.
On grandit, on arrive à un autre état, on évolue.
Et puis, que justement, dans ce cadre-là, il y a une sorte de message aux enfants qui est souvent... le même dans les contes, à savoir, quand tu étais petit, ton papa c'était le plus gentil des papas, ta maman c'était la plus gentille des mamans, mais en grandissant, tu vas voir que eux, ils ont aussi leurs ombres. Et de temps en temps, il y a des enjeux de rivalité, des enjeux de jalousie, des enjeux parfois pires, des enjeux pervers de la part des parents, qui peuvent être extrêmement mortifères pour toi. Alors, où tu te laisses avoir et tu risques de mourir ou de devenir fou ou de devoir partir à l'autre bout du monde pour t'en sortir. Ou tu peux faire confiance à tes capacités intérieures. Et là, le conte vient dire qu'il est possible de restaurer un féminin aimant. Et donc la sœur vient réparer la belle-mère, la mère du deuxième roi, la deuxième épouse du premier roi, à mon avis la première épouse du premier roi, parce que c'est quand même pas très sympa, elle avait 7 gosses, elle est morte, hein, ça se fait pas quand même, hein. Voilà. Et j'aurais tendance à penser que les belles-mères dans l'histoire, elles devaient pas être top non plus, parce que quand la mère n'est plus là, et ben c'est à la grand-mère de s'occuper des enfants. Voilà le premier message. Le deuxième, c'est de se dire que les hommes dans l'histoire ne sont pas exempts de responsabilité, puisque le père, il a envoyé sept gosses en pension parce que sa femme lui disait « Les gosses de ton premier époux, de ta première épouse, moi j'en ai rien à faire, hein, ça me gonfle, j'ai envie de passer les week-ends avec toi et pas avec tes gosses. » Et qu'en même temps, il est possible qu'il y ait une autre figure positive, en l'occurrence le deuxième roi, qui résiste à sa mère jusqu'à un certain point, puisque finalement il va céder. Et vous rappeliez d'ailleurs cette figure du bûcher, en grec, hein, le feu, ça se dit pouros, hein, purifier, c'est rendre pur, mais c'est aussi le faire par le feu. Donc on voit bien ici qu'on se retrouve dans une résolution extrêmement archaïque, qui serait au fond sacrificielle, hein, c'est-à-dire on rend un sacrifice aux dieux, c'est ce qu'on voit dans la mythologie grecque, c'est ce qu'on voit dans toutes les grandes traditions de Mésoamérique, hein, par exemple, où on sacrifiait même des enfants pour les dieux. Et là, le conte dit il est possible de faire autrement, c'est-à-dire de s'affranchir d'un sacrifice qui n'a pas une valeur symbolique en lui-même, qui est juste le sacrifice pour le sacrifice avec un petit s, et il est possible de retrouver des vraies forces de vie.
Eh bien, on va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, docteur Dominique Desmichel. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte, si vous voulez.
Merci. Come on, come on.